Chilpéric avait en aversion les intérêts des pauvres. Il blasphémait continuellement contre les prêtres de Dieu et rien ne l'amusait davantage que de ridiculiser les évêques et de se moquer d'eux. Extrait de Grégoire de Tours, 10 livres d'histoire, livre 6, chapitre 46.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
À l'époque mérovingienne, l'évêque joue un rôle fondamental. Nous allons voir dans le cadre de cette chronique qu'il est à la fois un pasteur, mais qu'il peut être également un conseiller du prince et surtout un administrateur de la cité dont il a la charge. Il est donc à la fois, sur le plan religieux, évêque, mais il pourrait faire office de préfet et de maire de l'époque, si j'ose dire. Effectivement, la Gaule s'est christianisée progressivement et au 5e, 6e siècle, même si les écrits ecclésiastiques indiquent régulièrement qu'il faut lutter contre les superstitions, il y a tout de même indéniablement une imprégnation chrétienne qui commence à progresser. Le baptême de Clovis a été, de ce point de vue-là, un moment important. Il a eu lieu non pas tant en 496, comme on l'a longtemps cru, mais plutôt grâce à une analyse assez serrée d'une lettre contemporaine de l'événement, la lettre d'Avit, évêque de Vienne, au roi Franc, plutôt des années 500, voire 507. À partir de ce moment-là, l'Église catholique va devenir un support important de la monarchie mérovingienne, parce que finalement, elle va avoir à s'appuyer sur une monarchie qui est catholique et non pas arienne, car d'autres monarchies des temps barbares, pour reprendre une expression traditionnelle, sont de tradition arienne, chrétienne mais arienne, alors que la monarchie franque, avec le baptême de Clovis, devient catholique. Dès lors, l'épiscopat va véritablement être un soutien. Cet épiscopat est d'ailleurs sélectionné de manière très différente d'aujourd'hui. Il est élu. L'évêque est élu par le clergé de sa cité épiscopale et par, si ce n'est le peuple, mais plutôt les principaux laïcs. Il faut ensuite avoir la confirmation par le roi et ce n'est qu'après que viendra un sacre épiscopal par l'évêque métropolitain de la région. Sur le plan social, ils sont tous issus de l'aristocratie mérovingienne parce que choisir un aristocrate a plusieurs avantages. D'abord, il est riche et donc il peut dépenser une partie de sa fortune non seulement pour les pauvres, pour embellir les églises, pour en construire, mais également pour faire ce qu'on pourrait appeler de l'assistance publique. Il mène une espèce de catholicisme social avant l'heure, dans le cadre de la cité épiscopale et dans les campagnes aux alentours. Mais qui plus est, le fait de le prendre dans l'aristocratie crée également des liens sociaux entre ces aristocrates qui sont également ses frères en épiscopat. Et puis d'autre part, le fait d'être aristocrate, pour beaucoup d'entre eux, font de ces évêques des gens cultivés, qui savent maîtriser ce que nombre de leurs contemporains ne maîtrisent pas, à savoir la lecture et l'écriture. Donc, ils sont véritablement un pilier de la monarchie mérovingienne. Alors, certains d'entre eux sont effectivement extrêmement connus. C'est le cas, par exemple, de Saint-Éloi, le conseiller du bon roi Dagobert, parce que, avant d'être évêque, Éloi avait été responsable de la monnaie royale de Dagobert Ier, et puis, à partir de 641, il était devenu évêque de Noyon et de Tournai, et il était encore le conseiller de Clovis II, le successeur de Dagobert. Et puis ensuite, on peut penser à Saint-Ouen, qui a été le chef de la chancellerie de la monarchie mérovingienne et qui était devenu un moment évêque de Rouen. L'un et l'autre, à savoir Éloi et Ouen, étaient finalement des personnes que l'on voyait aussi à la cour, auprès du souverain, et ils ont conservé, jusqu'à leur disparition, une véritable influence. Mais d'autre part, il faut voir qu'il y a dans les provinces, un peu éloignées du pouvoir royal, des hommes aussi qui jouent un rôle considérable. Prenons l'exemple de Didier de Cahors. Eh bien, Didier de Cahors administre sa cité, bien sûr, sur le plan pastoral. Il construit des églises et des chapelles. Il administre les sacrements. Mais il est aussi l'équivalent d'un maire et d'un préfet. Il fait attention à la sécurité publique. Il renforce les remparts. Il va lever des impôts. Donc, il joue un rôle qui est véritablement celui de père de la cité, qui va bien au-delà du simple rôle religieux. Mais évidemment, il faut voir que ces évêques ont sans doute une idéologie, une vision de la monarchie, parce que leur rêve, c'est finalement de faire des Mérovingiens des rois tout à fait chrétiens. En effet, les évêques mérovingiens proposent ce qu'on pourrait appeler un véritable guide épiscopal à l'usage du roi chrétien. En effet, les exemples bibliques ne manquent pas. Et très souvent, on rappelle au roi mérovingien qu'il doit être l'équivalent d'un nouveau David. C'est ce que rappellent, par exemple, les prélats qui se sont réunis à Clichy en 626, et qui explique à Clotaire II qu'il est véritablement le nouveau David, le roi, le prophète inspiré par Dieu, et une comparaison qui est d'ailleurs appelée à devenir relativement courante sous la plume des clercs mérovingiens et puis plus tard carolingiens. Il y a véritablement la volonté effectivement de créer un lien organique entre la royauté et l'Église. L'Église, il faut l'entendre non seulement d'ailleurs au travers de ses grands évêques, mais également des grands monastères qui témoignent également de l'idée que les souverains se font de leurs fonctions. Les rois et les reines mérovingiennes ont d'ailleurs pris l'habitude de fonder et de doter à titre personnel de nombreuses abbayes, les plus connues étant l'abbaye Saint-Marcel de Châlons ou Saint-Médard de Soissons, ou le premier Saint-Denis. Mais ils n'omettent jamais d'inscrire cette générosité qui est provoquée par la création de ces communautés avec un projet politique. Il faut également, de la part de la monarchie, solliciter les évêques pour prier pour le salut des sujets et le salut du souverain. Seulement, le problème va progressivement se développer à partir du début du 8e siècle, c'est que, comme nous l'avions d'ailleurs souligné dans une chronique précédente, le pouvoir mérovingien perd de sa force. Il va progressivement être dominé par les maires du palais, et en particulier par Pépin le Bref. Or, c'est à ce moment-là que se joue un jeu de bascule qui va faire de l'Église un élément qui va permettre le changement de dynastie. Face à l'affaiblissement du pouvoir mérovingien, qui, à force de distribuer des terres à ses grands feudataires pour maintenir leur fidélité, s'est dépouillé d'une partie de sa richesse. Qui plus est, dans l'Italie de l'époque, eh bien, la papauté se retrouve en difficulté face aux Lombards. Eh bien, au milieu du 8e siècle, L'Église va changer, je dirais, de carte politique. Les Mérovingiens vont être progressivement abandonnés, et au profit de ces Carolingiens qui apparaissent comme plus puissants, comme plus capables d'être les défenseurs de l'Église. Et donc, l'Église, les évêques, qui avaient été de réels soutiens pour la monarchie mérovingienne, vont donc accepter l'idée d'un transfert du pouvoir. Et c'est le cas quand le pape lui-même, Étienne II, viendra sacrer le nouveau souverain, cette fois-ci le premier de la dynastie carolingienne, à savoir Pépin le Bref. Mais il convient tout de même de faire aussi une dernière remarque. L'image relativement négative que les personnes ont de la Gaule mérovingienne, de ses rois fainéants, eh bien nous le devons beaucoup aussi à des sources d'origine ecclésiastique. Car finalement, ce sont quasiment les seules sources que nous avons sur l'époque. Et les clercs qui écrivaient ces sources n'hésitaient pas à critiquer les souverains pour finalement les dénigrer s'ils n'étaient pas assez proches de l'Église. Donc, méfions-nous, recontextualisons et voyons que ce passage des Mérovingiens aux Carolingiens, eh bien, nous est surtout connu par des sources ecclésiastiques qui ont eu aussi intérêt à un moment donné d'abandonner les Mérovingiens au profit des Carolingiens.